L'idée culture avec Matteo Carantin, c'est chaque semaine un ou une écrivain, écrivaine qui vient nous donner son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Matteo.
Oui, Caroline, je me suis rendue cette semaine chez l'écrivaine Geneviève Brézac qui publie une nouvelle édition de Sisyphe est une femme aux éditions de l'Olivier. Dans cet essai, Geneviève Brézac revient sur le concept de littérature féminine pour parler d'œuvres immenses écrites par des femmes et faire honneur aux grandes figures de la littérature que sont Virginia Woolf, Karen Blixen ou Ludmila Odlitskaya. Et pour son idée culture, elle nous parle d'un syndrome, un mal à la frontière entre les arts.
L'œuvre que j'ai choisie, c'est un tableau de Jackson Pollock qui s'appelle The Deep et qui date de 1953. Alors j'ai choisi ce tableau parce qu'autour de lui, j'ai vécu une étrange histoire. J'en ai un souvenir très particulier, même unique, de ce tableau à cause de la manière dont je l'ai rencontré. C'était un hiver, peu de temps après la mort de mes parents. Il faisait très froid et il avait neigé. Et je me rendais au palais de Tokyo, le sol était glissant, il y avait beaucoup de monde, c'était un vernissage. Donc j'ai monté les marches, et c'est un des premiers tableaux sur lequel je suis tombée. Hein. Et j'ai ressenti comme une angine, et j'ai dit à ma fille aînée, avec qui je m'étais rendue à cette exposition, je crois que je suis en train de tomber malade. La gorge me brûlait, était très douloureuse, complètement fermée, et j'ai eu le sentiment de m'évanouir. J'ai jamais oublié ce moment. Et des années plus tard, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, ce que tu as vécu, c'est le syndrome de Stendhal. » J'ai dit « Bon, je ne connaissais pas ce syndrome, donc le syndrome de Stendhal. » Et elle m'a raconté la chose suivante, c'est qu'en 1827, Stendhal est à Florence et la beauté des églises, enfin ça se passe à l'église Santa Croce d'ailleurs, le submerge et il fait une sorte de malaise. Ainsi, la beauté peut rendre malade, peut faire éprouver une angoisse, peut saisir. Et je pense que pour un écrivain, pour une écrivaine, la possibilité d'émouvoir de cette manière physique et violente est, ça paraît méchant, mais extrêmement enviable. Et il me semble que la peinture que je connais un peu et la musique que je ne pratique pas, mais que j'adore, ont une supériorité sur l'écriture, dans le sens où le choc est instantané, aussi bien avec la musique qu'avec la peinture, et c'est enviable. Alors donc c'est un tableau noir et blanc, comme souvent les tableaux de Pollock. On y voit un grand espace blanc, donc, blanc, mais avec des signes à l'intérieur, des taches, des traces, des inscriptions grises et jaunes et des petits points rouges, très très peu visibles, qui ouvrent sur une profondeur noire, béance, quelque chose qui est, avec des étoiles peut-être, qui ressemble à un ciel. On peut aussi y voir bien sûr une figure, un vase ou un visage, ou un masque. Et il y a quelque chose de, à la fois de très léger et de très profond. Je le trouve magnifique. Je ne suis jamais retournée voir le tableau. Il est resté comme quelque chose d'inscrit, comme un signe aussi que m'aurait fait Pollock. Il peint quelque chose qui est de l'ordre de l'espace du dedans, hein, qui se rapporte à la mystique, qui fait penser aussi à Michaud. Comme c'est relativement non figuratif, enfin relativement en même temps, on ne sait pas pourquoi on est aspiré, un petit peu comme dans le champ des pistes, puisqu'il s'était beaucoup inspiré de ces travaux des aborigènes et des chamans. On ne sait pas, il y a un mystère quant aux raisons qui sont à l'œuvre pour faire éprouver cette émotion qui est de l'ordre de ce qui vous relie, de ce qui relie à la vie et à la mort, et ce qui relie aux autres en fait.
Voilà l'idée culture de Geneviève Brézac. Olivier Compagnon, vous avez déjà été victime du syndrome de Stendhal dans votre vie? Un choc d'une telle beauté qu'il le rend malade?
C'est difficile de répondre à brûle pour point, mais en écoutant Geneviève Brézac, Je pensais à la même émotion. À chaque fois que je vais à Buenos Aires, je fais un pèlerinage quasiment. Je vais au Malba, qui est le grand musée d'art contemporain de Buenos Aires. Et je vais dans les salles du premier étage qui montrent les transformations de la peinture latino-américaine, pas seulement argentine, brésilienne, mexicaine, péruvienne, dans les années 1920. Qui sont un moment très intéressant, puisque c'est le moment, pour aller vite, où, je dirais, beaucoup de jeunes peintres latino-américains s'émancipent un peu des canons européens appris à Paris, dans le Paris de Montmartre ou de Montparnasse, et essaient d'inventer, c'est ce qu'ils disent, une vraie peinture argentine, une authentique peinture brésilienne. C'est Tarsila do Amaral, côté brésilien, c'est évidemment Diego Rivera, côté mexicain. Et c'est vrai que je connais par cœur cette salle du musée de Buenos Aires, et à chaque fois, j'y suis assez ému, aussi parce que j'ai travaillé dessus en tant qu'historien, mais ça me bouleverse assez, ouais.
Alors, de l'Argentine à la France, puisque vous faites des allers-retours constants, et qu'on a commencé, Olivier Compagnon, cette émission avec Didier Daninx en parlant d'Aubervilliers. Il se trouve que vous avez fait le mouvement inverse de Didier Daninx, puisque lui vient de quitter Aubervilliers après avoir vécu là-bas pendant 70 ans, et que l'IHEL, où vous êtes, hein, l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, vient de quitter le centre de Paris pour s'installer à Aubervilliers sur le campus Condorcet. Vous y êtes bien ?
Écoutez, on y est depuis un mois et demi, on y est plutôt bien parce qu'on a beaucoup de place. Donc nous avons quitté la rue Saint-Guillaume, le 7e arrondissement, et un joli jardin dans lequel on pouvait parfois faire cours, réunir nos étudiants, pour le métro Front Populaire, dans des locaux entièrement neufs, alors qu'ils restent sans doute encore un petit peu froids, mais c'est normal, on les occupe depuis très peu de temps, mais en tout cas qui sont très spacieux et qui correspondent aux standards qu'on peut attendre aujourd'hui dans le monde académique international, avec des vidéoprojecteurs qui fonctionnent, des connexions Wi-Fi d'excellente qualité, ce qui n'était pas le cas auparavant, des espaces de travail qui nous permettent effectivement disons d'exercer notre profession dans de bonnes conditions. Donc on est plutôt bien, oui.
La dévaluation des sciences sociales ou la sortie d'un ghetto germano-pratin ?
C'est un débat, hein. Un certain nombre de collègues ont dit, voilà, c'est très clair, on est en train d'exclure les sciences sociales du centre de Paris. On peut voir les choses d'une autre manière, hein. C'est quand même un énorme investissement public de créer ce campus, qui n'est pas fini évidemment, dans lequel il y aura bientôt, d'ici un an et demi, une gigantesque bibliothèque qui n'a aucun équivalent en France, ouverte à des horaires qui n'existent pas normalement pour les bibliothèques universitaires en France. Donc c'est aussi, dans une certaine mesure, un projet donc qui a été porté depuis la fin des années 2000, et qui montre que l'État est capable d'investir dans les sciences sociales. Alors, il faut maintenant qu'il le fasse durablement, c'est la grande question.